Bienvenue à Question d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Au micro, Renaud Grégoire, merci d'être là encore cette semaine et nous avons comme invité Mgr Pierre Meuré, qui est secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Bienvenue.
Merci, bonjour Renaud.
Alors nous sommes... Exceptionnellement, nous enregistrons cette émission, non pas dans les studios, mais nous sommes à Pont-Viau, à la maison centrale de la Société des missions étrangères, qui a vécu il y a quelques jours un événement très particulier sur lequel nous allons revenir bientôt. Et j'ai bien hâte de vous entendre là-dessus, Mgr Pierre Meuré. Maintenant, l'Assemblée catholique des évêques du Québec, qu'est-ce que c'est comme organisation?
Dans les faits, l'Assemblée des évêques catholiques du Québec existe depuis très longtemps. Elle a commencé à se réunir, parce qu'une assemblée d'évêques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des évêques qui se réunissent ensemble pour partager sur leur ministère, partager des préoccupations communes, se donner des orientations communes. Et ça, ça a commencé ici au Québec autour des années 1850.
Ça fait très longtemps.
C'est même la plus vieille assemblée épiscopale de cette nature-là au monde. Et elle a inspiré les réformes de Vatican II, où c'est maintenant obligatoire dans chaque pays d'avoir une conférence épiscopale nationale, comme nous avons ici au Canada la Conférence des évêques catholiques du Canada. Eh bien, il y a un peu de Québec là-dedans. Hein?
C'est bien de savoir qu'il y a eu une influence dans d'autres secteurs de l'Église catholique.
Tout à fait. Et au fond, l'Assemblée est un lieu de concertation. Elle n'est pas un lieu d'autorité. Elle ne se situe pas au-dessus des évêques. C'est que les évêques, alors qu'ils partagent au fond une cour de récréation commune, qu'est la province de Québec, malgré les différences entre les diocèses à cause des différences régionales, de l'urbanité, la ruralité et tout ça, il y a quand même une trame de fond au Québec qui fait que l'Église est confrontée à des réalités communes, peu importe où elle se trouve, et des initiatives doivent être prises dans certaines directions, peu importe les modalités particulières qui peuvent être prises à gauche ou à droite. Ce qui fait que les évêques, depuis les années 1800, parfois plusieurs fois par année, hein, j'ai vu, nous avons joué récemment dans des archives, que certaines années, entre les deux guerres notamment, il y avait jusqu'à 6 assemblées plénières par année. 6! Alors, et imaginez à l'époque, on se déplaçait pas comme aujourd'hui.
Alors, il n'y avait pas les facilités non plus de vidéoconférences.
Absolument pas. Ce qui fait que la volonté de travailler ensemble était quand même assez solide pendant très longtemps, jusqu'à la fin des années 60. Cette assemblée était présidée par l'archevêque de Québec et les services requis pour le fonctionnement des assemblées plénières étaient fournis par le diocèse de Québec. Mais en 1967-68, les évêques ont décidé de se doter d'une instance, qui est le secrétariat des évêques, que je dirige maintenant, et qui a pour but de faciliter le travail en commun que les évêques veulent bien vivre ensemble. Ce qui fait que je suis assisté de 3 adjoints, de d'autres collaboratrices, collaborateurs, pour soutenir les évêques dans leur désir de travailler en commun.
On va revenir sur ce secrétariat dans quelques instants et les comités, mais j'aimerais que vous nous rappeliez pourquoi est-ce que les évêques du Québec ont senti le besoin dès 1850 de se réunir assez régulièrement. Qu'est-ce qui a motivé le fait qu'eux décident de se rencontrer une ou deux fois par année ou plusieurs fois par année?
La première raison est de l'ordre de l'éducation. C'est que, reportez-vous à cette époque-là, il n'y a pas de ministère de l'Éducation. Et pour ainsi dire, il n'y a pas de véritable gouvernement au Québec. Hein. L'État est très petit. Il faut attendre là, les années après la Deuxième Guerre mondiale pour que l'État de la province du Québec commence à s'organiser, à avoir des moyens financiers, à avoir des ministères qui ont un impact concret sur les gens. Donc, Et même, il a fallu attendre la commission parents pour la création du ministère de l'Éducation. Donc, jusque-là, l'éducation, la mise en place du système d'école au Québec était le fait ou bien de l'Église catholique ou bien des églises protestantes et au premier chef l'Église anglicane. Ce qui fait que le premier document qui a été signé, puis c'était émouvant à voir parce qu'à la fin, ils ont tous signé en faisant la petite croix qu'on connaît lorsqu'ils signent, mais uniquement leur prénom et non pas le nom de famille. C'était l'usage de l'époque et c'est un document qui portait sur l'éducation. Puis, au fil du temps, ben, puisqu'ils avaient fait cet apprentissage du travail en commun sur des questions communes, qui étaient les questions d'éducation, ben, d'autres sujets se sont imposés. Et principalement des sujets qui touchent à la justice sociale. Faut savoir que, bon, le Québec a connu une période de pauvreté. Nous ne sommes pas un peuple depuis le début, un peuple d'entrepreneurs qui créons de la richesse. Donc, il y avait des enjeux de ce côté-là, ce qui fait que les évêques ont été très préoccupés par des questions qui touchent à la pauvreté, à la justice sociale. Ils ont été, avec l'entre-deux-guerres, par des questions relatives à la paix, à l'organisation du travail. Hein, quand on se souvient de cette fameuse grève de l'amiante, eh bien, l'archevêque de Montréal, Joseph Charbonneau, a pris fait et cause contre Duplessis en faveur des grévistes, allant même jusqu'à organiser des collectes pour soutenir les grévistes. Alors, toutes ces initiatives de création de syndicats, ce qui est aujourd'hui la CSN était un syndicat catholique à l'origine, mais tout ça était le fruit des travaux que les évêques se sont donnés à faire ensemble. Et au plan international, l'épiscopat québécois est reconnu pour l'enthousiasme et la pertinence de ses interventions sociales. Et encore aujourd'hui, à chaque année, l'Assemblée publie un fameux message du 1er mai qui se veut une réflexion sur des enjeux sociaux qui touchent les êtres humains, puisque pour les catholiques, hein, dans notre façon de penser, bien sûr, on a besoin d'un système économique, d'un système judiciaire, de toutes sortes de systèmes, mais tout cela doit être au service de l'être humain.
Monseigneur Pierre Meury, on aurait l'impression que les évêques se rassemblaient régulièrement pour parler de liturgie, pour parler plus de l'aspect, je dirais, de manifestation de foi. Sans doute qu'ils en ont parlé. Mais ce que je comprends de ce que vous dites, c'est qu'ils étaient très proches du peuple et entendaient les cris du peuple et des travailleurs et des travailleuses et qu'ils s'en souciaient profondément au point que ça devenait assez majeur dans leurs interventions.
Vous avez tout à fait raison. Il y a ici et là, quand on regarde les archives des procès-verbaux de l'époque, quelques questions liturgiques, ça va de soi. Mais ça n'a jamais été des problématiques d'organisation interne, la principale préoccupation qu'ils ont partagée ensemble. C'était véritablement être à l'écoute des enjeux de notre peuple, de notre monde, de notre société, et avec cet idéal évangélique, comment pouvait-il ou bien interpeller? Mais il faut savoir que pendant, jusque dans les années 60, tous les services sociaux émanaient de l'Église aussi. Donc, lorsqu'ils discernaient un besoin, eh bien, ils cherchaient à voir comment ils pouvaient offrir une réponse à ces besoins-là. J'ai souvenance, par exemple, qu'un comité, entre autres, du diocèse de Montréal, mais c'est en lien avec l'Assemblée aussi, s'était rendu compte qu'il y a des enfants qui souffrent d'handicaps psychologiques pour lesquels il n'y avait strictement aucun service social offert. Donc, et là, ils ont fait leurs recherches, ils ont découvert qu'il y avait une école de service social à Paris qui avait un département pour le soin des enfants et des adolescents qui souffrent de cela. Alors, ils ont pris un prêtre, ils l'ont envoyé là-bas pour aller chercher un doctorat dans l'affaire, ils l'ont ramené ici et le type a fondé un service social destiné à ces enfants qui aujourd'hui a été intégré au ministère de la Santé et des Services sociaux. Mais tout ça, ça émanait de l'Assemblée des évêques. On est loin de la liturgie de la piété. C'était vraiment sur des enjeux. Il faut dire que le contexte socio-politique le réclamait. C'était l'Église qui avait la structure capable à la fois de discerner, de répondre et de trouver les ressources pour que des moyens soient mis à la disposition de la population.
Monseigneur Pierre-Marie, comment, à ce moment-là, les évêques... Bon, je comprends qu'aujourd'hui, c'est plus facile de communiquer les réflexions. Vous parliez du message du 1er mai. Mais, je dirais, avant les années 60, comment les évêques communiquaient leurs réflexions? Est-ce que c'était par... Chaque évêque avait la responsabilité de le partager dans son diocèse? Comment... Est-ce que vous avez des pistes sur la manière dont ils partageaient leurs réflexions pour que ça touche aussi le peuple de Dieu?
Ils émettaient des documents. Hein, c'était une époque où nous lisions davantage qu'aujourd'hui et on lisait du papier et non pas sur des écrans. Ce qui fait qu'on voit encore de vieilles publications qui étaient mises en vente pour un sou. Dans le fond, de quoi à peine payer le papier sur lequel c'était imprimé. Et c'était distribué aux quatre vents, c'est-à-dire à travers les diocèses, les paroisses, les mouvements. On sait que le mouvement de l'Action catholique a été très, très, très fort jusque dans les années 60.
Parlez-nous des membres de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Alors, on imagine bien que c'est tous les diocèses du Québec catholiques, mais vous avez aussi des membres qui sont à l'extérieur et des églises orientales catholiques.
Oui, le principe, c'est que les évêques qui font partie de l'Assemblée ont un ministère ici, sur le territoire de la province de Québec. Donc, manifestement, les je ne sais plus combien, 18 ou 19 évêques de rite latin, comme on parle, Québec, Montréal, Sherbrooke, etc. Nous avons l'évêque de Pembroke, en Ontario, puisqu'une partie du territoire, le long du Témiscamingue, entre le Témiscamingue et l'Ontario, fait partie de son diocèse, donc un petit bout au Québec. Et il y a l'évêque aux armées. D'autre part, il y a des forces armées au Québec, donc il y a un service d'aumônerie ici au Québec, il en fait partie. Et nous avons trois évêques de rite orientaux. Alors, nous avons l'évêque maronite, l'évêque melkite et l'évêque syriaque. Pourquoi ces trois-là? C'est que leur diocèse, au fond, c'est tout le Canada. Mais leur cathédrale est ici, dans la région de Montréal ou à Laval. Ce qui fait que comme ils ont pied à terre ici, que c'est d'ici qu'ils dirigent leur diocèse, eh bien, ils font partie de notre assemblée épiscopale. Ce qui fait qu'au total, on a eu 24 ou 25 membres au total dans l'assemblée.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Questions d'aujourd'hui. Au micro Renaud Grégoire, nous avons comme invité Monseigneur Pierre-Marie, qui est secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Monseigneur Pierre-Marie, vous êtes secrétaire général d'une Assemblée d'évêques catholiques du Québec. Quelle est votre fonction, quel est votre rôle?
Mon rôle premier est de veiller à l'organisation du travail que veulent vivre les évêques ensemble. Donc, principalement, à veiller à l'organisation des assemblées plénières, à en rédiger le procès-verbal et à en assurer les suivis. Pour bien travailler, l'assemblée s'est organisée. Donc, elle s'est dotée d'un comité exécutif, dont je suis le secrétaire trésorier. Donc, je participe à toutes les réunions de ce comité exécutif. Je prépare les réunions, je fais le procès-verbal, j'en assure le suivi. J'ai droit de parole sur ce comité exécutif, mais je n'ai pas droit de vote, parce que je ne suis pas un évêque. Donc, je peux donc influencer, si vous voulez, mais la décision revient aux évêques. Ce comité exécutif, évidemment, s'assure que les assemblées plénières soient préparées, qu'elles soient bien vécues, etc. L'assemblée s'est aussi dotée de trois comités de travail, si on veut. ça a évolué beaucoup avec le temps, mais présentement, c'est la formule que nous avons. Il y a le Conseil Église et Société qui s'intéresse à toutes les questions de justice sociale, de relations avec l'État, les questions de laïcité, de justice, hein, vis-à-vis, par exemple, des personnes migrantes, des travailleurs temporaires. Ensuite, il y a notre Conseil Évangélisation et Vie chrétienne qui s'intéresse, lui, à la dynamique missionnaire de l'Église. Hein. Notre mission, c'est d'annoncer l'Évangile, mais concrètement, on fait cela comment? On peut peut-être vouloir ressortir le petit catéchisme des années 50, mais j'ai l'impression que ça marchera pas. Donc, comment on s'y prend aujourd'hui pour trouver les bons chemins, pour discerner les bonnes attitudes, les transformations qu'il faut vivre pour pouvoir être des annonciateurs de la bonne nouvelle? Le troisième conseil est celui qui se nomme communauté et ministère. Il s'agit là davantage de régie interne, si on veut, toutes les questions qui touchent la vie des ministres, qu'ils soient ordonnés ou non, leur formation, leur ressourcement, la vie des communautés chrétiennes, comment elles s'organisent. Vous savez qu'aujourd'hui, elles sont bouleversées, les communautés chrétiennes paroissiales. On les fusionne, on les accoquine avec les voisines, on enferme, on en crée des nouvelles. Alors, comment tout cela se réfléchit? Le conseil communauté ministère est un des forums importants de cela. Et chacun de ces conseils-là est en lien avec ce qu'on appelle des groupes partenaires, qui sont des gens qui, dans les diocèses, portent un même chapeau. Un groupe partenaire, par exemple, seront les responsables de l'éducation à la foi dans les diocèses, ou les économes, les chanceliers, les responsables de pastorale sociale. Alors, ces gens-là se regroupent et mettent ensemble leurs préoccupations, leur expérience, leur soutien mutuel pour avancer chacun dans leurs responsabilités. Et tous ces groupes-là sont soutenus par le personnel du secrétariat.
Monseigneur Pierre-Marie, justement, dans ces comités dont vous parlez, est-ce qu'il y a de la place pour des laïcs, ou c'est seulement des évêques, des prêtres, des diacres?
Bien, dès qu'on quitte la sphère de l'Assemblée, ce ne sont plus que des évêques. Donc, dans les conseils, hein, les trois conseils que je viens de nommer, dans chacun de ces conseils-là, il y a trois évêques, mais il y a cinq ou six personnes laïques, ou parfois ça peut être un prêtre, mais principalement des personnes laïques, qui, par leur expérience, leur formation, leur intérêt, leur expertise, peuvent contribuer à la réflexion des évêques. Si bien que ces conseils-là vont chercher des points de vue et des horizons sur une étendue la plus vaste possible. Et ensuite, lorsqu'on arrive aux groupes partenaires, qui sont au fond des membres des équipes diocésaines, c'est à 99,9% des laïcs. Il y a peut-être juste le groupe des prêtres ou le groupe des diacres, on va trouver des prêtres et des diacres, mais pour le reste, ce sont des laïcs, hommes et femmes, engagés dans leur diocèse, qui œuvrent et qui contribuent aux travaux de l'Assemblée.
Et en quoi ça change la présence de laïcs? En quoi ça apporte quelque chose de différent que si c'était simplement des ministres ordonnés, évêques, prêtres, diacres? Qu'est-ce que ça apporte de plus pour vous d'avoir et ça fait longtemps, je pense, que vous avez des laïcs dans les comités.
Écoutez, depuis au moins les années 60, là, de ce que je peux comprendre, il y a même eu une première femme, malheureusement la seule, hein, qui a occupé ma fonction au début des années 80. Mais cela dit, ce que ça change, ben, je vous dirais, situons-nous dans une église. Hein, peut-être que ça vous est déjà arrivé, mais quand on est dans l'église et que c'est le dimanche, il y a un peu de monde et tout ça, et qu'on est assis dans les bancs de l'église, on voit certaines choses. Mais si on est appelé, par exemple, à être lectrice, lecteur, et qu'on s'en va à l'embon, et qu'on regarde la même église, on ne voit pas la même chose. Pourquoi? Parce que la perspective a changé. Et je dirais que, généralement, les ministres ordonnés sont dans le sanctuaire de l'église. Ils voient l'église. Ils la connaissent, ils l'aiment, ça c'est certain, mais ils voient pas tout. Parce que vous et moi sommes assis vis-à-vis, ben je vois pas votre derrière de tête là. Pour ça, il faudrait que je change de position. Alors le fait qu'on a dans nos structures, ces regards croisés, on a davantage de chances de faire le tour de la question, hein, de voir la même réalité sous différents angles, différentes sensibilités, différentes expertises aussi. Hein, si quelqu'un a une expertise en sociologie, par exemple, il verra pas tout à fait les mêmes choses qu'un théologien. Alors, on essaie d'avoir le plus de points de vue possible pour que notre regard soit le plus riche possible et qu'ensuite le discernement soit le plus juste possible et les actions le mieux ajustées possible.
Monseigneur Murray, nous sommes à Laval, à Pont-Viau, dans la maison centrale de la Société des missions étrangères. Or, il y a quelques jours, il y a eu un événement assez particulier. Pouvez-vous nous raconter un peu l'histoire de cette transmission de cette maison à l'Assemblée des évêques du Québec?
Oui, nous sommes au séminaire des missions étrangères, c'est le nom officiel de l'édifice, qui, les prêtres des missions étrangères ont été fondés par les évêques québécois 1921, si ma mémoire est bonne, et rapidement, on voit là le dynamisme de l'Église à ce moment-là. 3 ans plus tard, ils avaient déjà acquis le terrain sur lequel la maison est construite, et ils avaient déjà construit la première aile. C'est quand même pas si mal. Et donc, en 1924, la bâtisse, et je pense qu'en 1925, les premiers missionnaires s'en allaient. Alors, on voit tout de suite le dynamisme. Et quand on situe ça à l'époque, on peut comprendre qu'assez rapidement, la première maison était trop petite. Ils ont ajouté une deuxième aile assez rapidement, à moins de 10 ans après la première, et quelques 20 ans plus tard, la troisième aile. Et ce qui fait qu'il y avait ici jusqu'à 60 prêtres missionnaires en formation en même temps à une certaine époque. Et cette maison a servi de maison de formation jusqu'en 75. Après ça, elle est devenue un centre de formation missionnaire, un lieu de passage, etc., pour devenir, depuis quelques années, la maison de retraite des missionnaires retraités. Mais voilà que le nombre diminue et les missionnaires se sont dit, ben, qu'est-ce qui va arriver avec notre maison? Et justement parce qu'ils sont habités par cet esprit missionnaire et qu'ils avaient quand même la chance de ne pas avoir à vendre la maison pour obtenir les sous pour poursuivre leur mission. Ça, c'est assuré autrement. Mais se demandaient comment la maison peut-elle servir encore à la mission d'Église. Et c'est là où ils nous ont contactés il y a 5 ans pour nous dire, ben, on est prêt à vous donner la maison. Évidemment, il y a eu, comme on pourrait dire, une gorgée de travers qui a été avalée par à peu près tout le monde autour de la table, parce que c'est un très, très grand édifice. On parle de 70 000 pieds carrés, là, c'est pas petit. On s'est dit, OK, c'est beau, on est touché et renversé par la générosité des missionnaires. Mais cela dit, est-ce que c'est un éléphant blanc? Hein? Ce qui fait qu'on s'est mis à réfléchir pour dire, OK, si on accueille ce don dans cet esprit-là, à quoi la maison concrètement peut-elle servir? Et on s'est mis à parler à des dizaines d'intervenants dans l'Église, dans la grande région de Montréal, pour arriver à découvrir, non sans surprise, qu'il y avait 3 grands besoins qui se manifestaient et pour lesquels il n'y avait pas vraiment de solution. Les organismes catholiques ont besoin d'un espace de bureau. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces organismes-là étaient logés pour leurs bureaux dans des maisons de communautés religieuses qui ferment les unes après les autres pour que la maison de la communauté soit conséquente avec la taille de la communauté. Donc, il n'y a plus d'espace de bureau dans des maisons religieuses. Ils ont besoin de ça. Pas simplement pour avoir un bon prix, mais pour avoir cette atmosphère, ce contexte de maison religieuse. L'autre besoin était d'avoir des salles de réunion. On se souvient tous du 7400 qui offrait plein de salles à côté d'un métro.
Sur le boulevard Saint-Laurent. C'était l'éclair de Saint-Viateur qui avait cet édifice.
Tout à fait, qui était hyper important par les espaces de rencontre qu'il permettait. Mais c'est fermé. Donc, on a besoin de salles de rencontre. Et le troisième besoin, c'était un lieu pour pouvoir offrir de l'hébergement pour tenir une retraite, une réunion sur plusieurs jours, un colloque. Par exemple, l'Assemblée des évêques, pendant longtemps, se réunissait à la Maison de la Madone à Trois-Rivières. Quand celle-ci a fermé, on n'a pas eu le choix que de se retourner vers des hôtels. Bien sûr, on fait notre travail et tout ça, mais ça pas le lieu ne nous porte pas tellement. Ce qui fait que on a fait des études avec des architectes puis avec des hommes d'affaires pour voir est-ce que il serait possible que cette maison puisse accueillir des espaces de bureaux, un lieu d'hébergement et offrir des salles de rencontre. Et la maison physiquement est capable d'accueillir ces trois fonctions, et ces trois fonctions vont générer assez de sous pour voir au maintien et à l'entretien de l'édifice. Ce qui fait qu'il y a quelques jours, on a célébré officiellement, pas juridiquement encore, ça va venir dans quelques semaines, le transfert de la communauté des pères à l'Assemblée des évêques de cette propriété. Et j'ai été très, très touché par le geste symbolique qu'ont choisi les pères pour marquer l'événement. J'ai appris que lorsque, au début, les prêtres partaient en mission pour la première fois, on leur remettait à tous une croix de missionnaire qui était la même pour tout le monde. Ils ont fouillé dans leurs archives, ils en ont trouvé quelques-unes qui restaient encore. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont choisi de présenter cette croix à la maison comme s'ils envoyaient la maison en mission.
Donc la maison est envoyée en mission.
Tout à fait, par ce geste symbolique. Et moi, j'ai pris l'engagement solennel de mettre en évidence cette croix dans les aménagements que nous ferons avec une fiche signalétique pour qu'on n'en perde pas mémoire.
Monseigneur Pierre Murray, vous êtes secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Il nous reste quelques secondes. Quel est votre souhait ou votre rêve pour ce nouveau centre catholique?
Mais qu'il devienne un carrefour catholique pour la grande région de Montréal, qui accueille quand même la moitié de la population du Québec, pour qu'on ait pignon sur rue, qu'on ait un phare bien physique, dans lequel va pouvoir s'exprimer une vie, la vie catholique, la vie missionnaire, la vie de rassemblement, la vie de célébration et de prière. C'est mon rêve pour cette maison.
Monseigneur Pierre Murray, merci beaucoup pour cette entrevue.
Tout le plaisir est pour moi.
L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Yannick Caron pour Radio Galilée et Lysandre Duplé pour Radio VM. Merci de votre écoute. Au micro, Renaud Grégoire, et je vous dis à bientôt.